T'en as rien à foutre de la planète ou...
Chaque génération va critiquer la génération qui arrive.
Je ne crois pas au modèle Amish.
T'angoisses pas trop ?
Bah si, si, j'angoisse.
On écoute, on accueille, inconditionnellement.
Accepter que la nature des relations qu'ils entretiennent avec les autres change aussi.
Nous sommes en train de nous séparer et de nous diviser.
L'intime est politique.
Je veux vraiment l'effort sincère de comprendre votre monde.
Lien précieux, le podcast qui remet l'intime au cœur de l'urgence environnementale. Je suis Amandine Lafont et l'écologie, les autres et moi, c'est pas toujours ça. Vous non plus ? Alors retrouvez-moi deux fois par mois avec mes invités qui partageront une expérience forte autour de l'impact de leur engagement sur leurs relations aux autres. Belle écoute ! Épisode 1. Avoir ou ne pas avoir des enfants, telle n'est pas la question. Ma vie de maman a démarré le 2 avril 2015, 9 ans pile avant le lancement de ce podcast. La question de faire venir mes filles au monde, ou pas, ne s'est pas posée une seule seconde pour moi, si insouciante ou carrément inconsciente que j'étais à l'époque. Mais leur arrivée a clairement joué un rôle clé dans ma prise de conscience de l'état du monde, si bien que j'ai par la suite renoncé à faire un troisième enfant. Car j'ai fini par moi aussi me poser les questions qui reviennent souvent dans les milieux écolos dans lesquels j'évolue aujourd'hui. Vu que les êtres humains, du moins les occidentaux, sont la cause de la catastrophe environnementale, est-il raisonnable d'en faire venir un de plus sur Terre ? Quel va être leur avenir dans ce monde qui va de plus en plus mal ? Jusqu'où aurais-je été prête à aller pour devenir maman si j'avais eu ces convictions avant ? Est-ce que le fait d'être mère ne me freine-t-il pas dans mon engagement écologique aujourd'hui ? Comment faire avec mon conjoint pour transmettre nos valeurs en dépit d'un entourage avec un niveau de conscience différent du nôtre ? Et tout ça en préservant l'innocence de nos filles et en leur offrant un cadre d'espérance. Enfin, si c'est seulement possible. Enfin, est-ce que l'idée d'élever de potentiels futurs écoterroristes pour embêter Gérald Darmanin peut aider à gagner en sérénité ? La personne avec qui j'avais envie de parler de tout ça, c'est Hélène de Vestel. Car si aujourd'hui elle est enceinte de sa deuxième fille, quand je l'ai connue en 2019, elle ne souhaitait pas avoir d'enfant. Elle l'avait même expliqué sur le plateau d'Elsa Wolinski, ce qui lui avait valu les foudres de la fachosphère sur Internet.
Mettre un enfant au monde, alors que j'aurais pas fait tout ce que je peux en amont pour lui assurer des conditions où je trouve que ça vaut le coup et ça empire pas en tout cas les choses de le faire venir au monde.
Hélène, c'est la fondatrice d'EDENI, un organisme de formation génial dédié à la transition écologique radicale. C'est elle qui m'a formée quand je démarrais ma reconversion en 2019. C'est elle qui m'a ensuite proposé d'accompagner des familles vers une parentalité plus éco-responsable. Et si aujourd'hui on me traite de wokiste sur les réseaux sociaux ou pendant les repas de famille, c'est aussi un peu grâce à elle.
Prochain arrêt, Cazeran. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai.
C'est donc par un beau matin de février, après 2 heures de TGV et 45 minutes de TER depuis Montparnasse direction Gazan, près de Rambouillet, que j'ai la joie de retrouver Hélène, dans l'écolieu où elle vit avec sa petite famille depuis 1 an, pour qu'elle nous explique pourquoi, à cette époque, devenir mère était inenvisageable pour elle.
La peur, j'imagine que c'est surtout l'émotion qui dominait pour cette raison de ne pas avoir d'enfant. C'était de se dire, le futur est tellement incertain et il y a déjà tellement de malheurs et d'injustices sur Terre que je me vois mal apporter une âme supplémentaire qui va forcément être en souffrance parce que je ne la vois pas être autrement vu les conditions du monde actuel et futur selon toute vraisemblance. Ma position, elle a évolué depuis, forcément, pour plusieurs raisons. Tout est toujours multifactoriel, hein, la vie est rarement aussi binaire et simple qu'on le croit. Mais la réalité, c'est que, premièrement, j'ai rencontré entre-temps mon conjoint, mon partenaire de vie, qui, lui, avait une très très forte envie de paternité, et ça a beaucoup joué dans mon évolution de pensée. Et c'est aussi mon propre engagement, mes propres convictions, mes propres réflexions écologiques qui ont été beaucoup nourries par l'écologie radicale, par l'anti-industrialisme, par des rencontres aussi, qui m'ont convaincue qu'on avait beaucoup beaucoup de choses à abandonner avant d'abandonner la magnificence, on va dire le miracle de donner la vie, de faire famille. Alors on peut faire famille de vraiment beaucoup de manières, hein. On peut tout à fait exercer une parentalité sans apporter une nouvelle âme sur Terre. Ça a fait partie aussi très longtemps de ma conviction de me dire j'adopterai avant d'avoir un enfant. Il y a plein d'autres choses à abandonner, que ce soit la technologie, que ce soit les objets superficiels, que ce soit notre mode de vie capitaliste. Voilà, avant d'abandonner le fait d'avoir des enfants, il n'y a rien de plus beau. Ça change toute une vie. Le côté horrible de se dire que l'enfant va être uniquement... une addition de problèmes et de pollution et de peur et de... Non, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. En tant qu'espèce, on n'a pas d'injonction à avoir ni beaucoup d'enfants, ni des enfants tout court, d'ailleurs. La question n'est pas là. La question, c'est juste de se dire on continue d'avancer dans notre développement historique, mais avec intelligence. Il y a des choses qu'il nous faudrait abandonner parce que ça a été des erreurs. Et il y a des choses qui, au contraire, sont beaux, que ce soit l'art, que ce soit la solidarité, l'entraide, le fait d'avoir un toit sur la tête, c'est important, de faire des fêtes, de se réunir, d'avoir des rituels, tant que ça ne fait pas de mal aux gens. Et le fait de continuer d'avoir des familles, encore une fois, mais n'importe qui peut s'aimer, des adultes consentants, enfin voilà, on peut faire famille de plein de manières différentes. Il peut après y avoir des matriarcats, des réunions plus ou moins grandes. Néanmoins, la question de l'enfantement, c'est devenu une conviction avant même de le ressentir dans ma chair, que c'était pas là où devait se jouer mon plus grand engagement écologique. Ça restait personnel, ça restait un choix personnel et de possibilités aussi, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui me reste très ancré en moi. C'est la certitude que l'enfant n'est pas un produit de consommation. C'est pas une expérience de vie comme une autre. On porte une responsabilité énorme à faire venir un enfant au monde, à faire venir cette innocence, à la mettre au regard de toutes les atrocités qui existent. Et donc, on a un devoir de protection, un devoir de responsabilité et donc un devoir aussi d'un minimum matériel. Quand Elsa Wolinski m'a interviewée sur mon désir, ou plutôt mon non-désir d'enfantement, j'étais quand même au RSA. J'étais dans une situation où je commençais un engagement militant très fort, où je mettais aussi mon corps en danger dans des manifestations, dans des actions directes, etc. Donc j'étais dans une situation où, sincèrement, je me voyais pas enfanter et je ne voyais pas vraiment ma vie changer parce que j'étais tellement dans le temps présent. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes dans la vingtaine, d'ailleurs, où voilà, on a l'impression d'avoir des certitudes pour tout le restant de nos vies qui peuvent évoluer. Et je pense que c'est important de respecter le cheminement de tout le monde. Et j'ai jamais été, heureusement, aussi obtus pour me dire oh, « mais j'ai dit ça un jour, je ne pourrais jamais changer d'opinion ». C'est ce que je dis souvent chez Denis, c'est que dans mon organisme de formation, c'est qu'on n'est pas des savants, on est des chercheurs. Donc on continue de chercher une vérité qui pourrait suivre une courbe asymptotique, d'essayer de s'en rapprocher, d'essayer d'être le plus honnête, le plus juste possible, mais on ne saura jamais tout et surtout pas le futur. L'enfantement ne doit pas devenir un produit de consommation comme il en prend malheureusement un peu la pente aujourd'hui avec la surmédicamentalisation pour répondre à un problème qui est à la racine et notre infertilité grandissante. Hein. Ça, j'en ai tout à fait consciente et je peux comprendre que ça engendre énormément de souffrance. Néanmoins, il y a quand même un truc autour de cette foutue consommation qu'on essaie de... et ce rêve et ce modèle qu'il faudrait absolument, par lequel il faudrait passer. Il y a tant de personnes aussi qui, heureusement d'ailleurs, maintenant prennent la parole pour dire qu'elles regrettent d'avoir été mère ou père et à quel point ça a été difficile. Et si on leur avait laissé le choix davantage avant, d'un point de vue des schémas mentaux, je pense que le monde s'en porterait beaucoup mieux. Et donc de la même manière, je serais bien mal avisée de dire aux gens de ne pas avoir d'enfants ou d'avoir des enfants, puisque ça serait rajouter un nouveau schéma mental ou une nouvelle injonction à quelque chose qui doit rester quand même de l'ordre de la liberté et de la beauté, surtout, qu'on veut apporter au monde et à nos familles.
Quelques semaines avant notre échange, un chiffre agite le gouvernement, -7%.
Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années.
L'INSEE vient de sortir son bilan démographique et les naissances ont baissé de près de 7% entre 2022 et 2023. Et même de 20% par rapport à 2010, année où elle a atteint son dernier pic.
Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
Dans un sondage publié dans Les Échos, pour les Françaises et les Français, les deux principales causes de la baisse de natalité sont d'un côté les difficultés économiques, la crise de pouvoir d'achat, et de l'autre, le fait de ne pas avoir envie de faire grandir un enfant dans le monde actuel et le futur qui s'annonce. Il semblerait donc que ces questionnements ne se bornent pas ou plus aux sphères écolo. D'ailleurs, de ce côté, j'assiste avec joie à l'annonce de nouvelles grossesses, comme celle de l'influenceur Gaëtan Gabriel et sa conjointe en mode « Macron, on te prend au mot, on réarme la France de plein de petits écolos !» Au final, tout ça, ça se résume en deux questions qui me taraudent souvent. Quelle planète va-t-on laisser à nos enfants? Mais aussi, quels enfants va-t-on laisser à la planète?
Moi, je pense que les enfants, ils s'adaptent à... Malheureusement, pour le meilleur comme pour le pire, ils s'adaptent à ce qu'ils ont, à ce qu'ils ont toujours connu. Et du coup, s'ils naissent dans un monde post-apocalyptique, ils auront connu que ça, donc c'est pas ça qui me fait le plus peur. Moi, quand je parlais d'ailleurs de ma peur d'enfanter dans un monde comme ça, c'était presque plus pour moi que pour mes enfants. C'est-à-dire moi, par rapport à ma culpabilité, à ma responsabilité, au fait que forcément je ne pourrais plus me mettre en danger et ressentir cette liberté comme auparavant parce que j'aurais un être sous ma responsabilité. Et donc, quelque part, moi, c'est plus dans ce sens-là que je l'entends. C'est plutôt ne leur laissons pas du terrain. On va quand même pas les laisser gagner en arrêtant de vivre, d'être dans la joie, d'être dans la construction, d'être dans les liens précieux. On va quand même pas leur laisser ça aux destructeurs pendant qu'eux n'en ont rien à faire. Enfin, ils attendent que ça, hein, qu'on s'éteigne. Et comme ça, ils seront plus qu'une petite centaine avec des super yachts à tout détruire jusqu'au dernier grain de terre fertile. Non, on ne va pas leur laisser ça. Mais je ne vois pas les enfants comme un outil. La réflexion n'est pas présentée comme ça, ce serait malhonnête de ma part. Souvent, elle est plutôt vue comme positive, mais en tout cas, moi, ça ne rentre pas dans ma réflexion de réarmement démographique, aussi écologique soit-il. Je préfère que de laisser les enfants en dehors de tout ça.
Pour Hélène, il y a un autre facteur qui a pesé aussi dans l'équation de la parentalité. Elle en parlait déjà de façon ouverte à l'époque. Elle souffre d'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut provoquer des douleurs fortes, notamment au moment des règles, mais aussi une infertilité. Et même s'il n'y a pour le moment pas de consensus scientifique sur le sujet, il est possible que les pollutions et les perturbateurs endocriniens puissent jouer un rôle dans la survenance de cette maladie.
J'ai eu des douleurs menstruelles très très fortes jusqu'à l'évanouissement de mes 15, on va dire, à mes 20 ans, jusqu'à ce que je sois diagnostiquée avec de l'endométriose. Heureusement, quelque part, moi j'ai eu un grand kyste de 8 cm sur l'ovaire gauche, sur lequel j'ai beaucoup communiqué effectivement parce que je suis tombée des nues de voir qu'on n'en avait jamais parlé, j'en avais jamais entendu parler avant d'être diagnostiquée alors que ça concerne presque une femme sur 10. Et ça a fait partie aussi d'une réflexion écologique de me dire actuellement une des seules manières de traiter l'endométriose, alors il y a de l'opération mais elle n'est pas applicable à tout le monde, elle n'était pas pour moi. Et puis ça reste une opération quand même très lourde de retrait, de chirurgie. Et puis de l'autre côté, il y a des solutions hormonales, prise d'hormones en continu pour ne plus avoir de menstruation et du coup faire réduire ces kystes d'endomètre qui se sont déplacés et qui sont sortis. Et ça, moi, ça m'interroge beaucoup parce que qui dit hormones, dit hormonothérapie, dit médicaments, envoi supplémentaire dans la nature, dans les cours d'eau, et dire quelque part ça soulage une personne, voire parfois ça peut sauver hein, des personnes. Mais combien ça en tue à l'autre bout de la chaîne. Et en fait, tant qu'on n'aura pas cette réflexion d'honnêteté, et encore une fois, je suis bien mal placée pour donner des injonctions ou des ordres, je ne dis pas du tout qu'il ne faut plus que les personnes se soignent et qu'il n'y a pas une avancée de la médecine qui peut être très bénéfique. Néanmoins, je remarque, et ça a été particulièrement le cas pendant la crise Covid, que la réflexion écologique est la grande absente systématique de ces avancées, de ces soi-disant progrès, et qu'en réalité, on le sait aujourd'hui avec l'étude des effets rebonds, des impacts divers et variés, parfois on fait un pas en avant sur un sujet, mais on en fait 5 ou 10 en arrière sur d'autres qui sont plus ou moins visibles, et c'est notamment le cas avec cette pollution aux hormones, sans compter la mainmise sur les pays occidentaux qui ont les moyens de se procurer ces hormones versus d'autres personnes qui en auraient davantage besoin pour des questions de survie. Cette réflexion, elle s'applique évidemment à la pilule contraceptive et tous ces effets secondaires, tertiaires, etc., dont on commence en tout cas à davantage en parler et davantage avoir exercé un esprit critique. Cela dit, le but n'est pas d'être réactionnaire et de se dire faut revenir à un état de nature rêvé, mythologique presque, où tout serait mieux et la femme au foyer et sans contraception, etc. En étant féministe, je suis bien placée pour savoir ce qu'a pu apporter aussi ces éléments de contraception. C'est juste de ne pas avoir d'angle mort et de se dire, ok, peut-être que l'issue de la réflexion politique commune sera, en fait, ça vaut le coup. C'est une pollution, un peu comme, j'en sais rien, moi, le préservatif, de dire oui, on ne peut pas recycler le préservatif, ça arrête, mais ça vaut largement le coup par rapport à tout ce que ça évite comme désagrément. Peut-être que la pilule serait pareille, mais le fait est qu'on n'a pas eu cette réflexion sur les impacts écologiques. Et donc, moi, j'ai décidé d'arrêter cette prise hormonale en continu pour faire diminuer mon kyste. Et qu'à la suite de ça, je suis tombée enceinte une première fois. C'était une totale surprise. C'était pas du tout prévu. Je commençais la symptothermie pour essayer d'avoir une contraception naturelle. Mais ça a fait une sorte de déclic dans notre couple. Et en fait, on était super heureux de cette grossesse. On a commencé à faire des plans sur la comète, des bouleversements que ça allait engendrer, mais qui finalement seraient positifs. Bon, ça s'est terminé malheureusement sur un arrêt involontaire de grossesse. Ensuite, une deuxième grossesse qui, pareil, s'est arrêtée. Toujours due certainement à l'endométriose sans qu'il puisse y avoir de lien direct effectué. Jusqu'à une troisième grossesse qui a pu aller jusqu'à son terme et nous apporter une merveilleuse petite fille.
Ah, elle est bien.
T'en as mis sur ton doigt, ouais. Pas grave, tu le lèches. Il est pas bon ton doigt, ça c'est pas de ma faute. Hein.
La maternité a forcément entraîné un petit changement de mon engagement politique et écologique. Je dirais qu'elle l'a enrichi. Il y a cette question du fait que ça ne définit pas non plus totalement mon engagement écologique qui était préexistant et ça ne l'a pas révolutionné, mais ça l'a enrichi de nouveaux domaines de réflexion plus liés justement à comment on tente d'éduquer un être tout en préservant son individualité, tout en préservant son esprit critique, parce que c'est ce qu'on prêche à longueur de journée, donc on serait quand même bien mal placé pour imposer un cadre de pensée très très strict à nos enfants. Et de l'autre côté, on a aussi une responsabilité de les protéger du monde extérieur, de leur inculquer des valeurs qui soient justes, qui soient honnêtes, qui permettent de lutter contre les choses révoltantes et de ne pas être aveugles aux injustices, et de l'autre côté, d'avoir suffisamment de joie et de bonheur pour garder son innocence et grandir un peu préservée. Donc c'est toutes ces nouvelles contraintes qui me sont apparues quotidiennement plutôt que sporadiquement lors de rencontres avec justement des parents qui venaient à mes formations ou que je rencontrais dans le cadre de mes lectures, de mes recherches, etc. C'est plus dans ce cadre-là. Après, j'ai pas l'impression, contrairement à certaines personnes, j'ai pas l'impression d'avoir profondément changé en tant que personne. Je me reconnais toujours quand je me regarde dans la glace. C'est toujours Hélène, c'est toujours la même, avec ses mêmes réflexions, ses mêmes envies, sa même radicalité. J'ai pas profondément changé par rapport à ça et je suis capable de parler de plein d'autres choses que de maternité. C'est pas du tout le centre de mon monde. En revanche, ça m'a apporté forcément, oui, une nouvelle responsabilité et donc une responsabilité de moins me mettre en danger. Parce que maintenant, pour moi, ce serait la fin du monde un peu d'être en garde à vue pendant 48 heures. Et qu'est-ce que je fais de ma fille, quoi ? À la fin, si son papa n'est pas disponible, si sa grand-mère non plus, il n'y a plus que moi, quoi. Déjà, de se mettre en couple et d'avoir des amis qui comptent sur nous dans certains cadres ou moi-même pour mes formations, etc., c'était déjà une certaine forme de contrainte. À une liberté absolue, mais choisie, hein, tout à fait assumée. Et là, de la même manière, c'est une nouvelle contrainte choisie et assumée, mais dont j'assume pleinement, justement, les contours et les conséquences, notamment pour mon engagement politique et écologique. Et je pense que c'est très bien. J'ai pas du tout de problème avec ça, parce que c'est quelque chose que je répète souvent, l'engagement écologique, c'est comme un vol d'oie. Il y a des oies en tête qui ouvrent la voie pour d'autres qui sont un peu plus en retrait, qui bénéficient de ce leadership. C'est très bien d'avoir des leaders. Et donc, moi, je suis prête, et je l'ai déjà amorcé depuis quelques années, à laisser ce leadership à d'autres personnes qui ont moins ces contraintes et qui peuvent davantage prendre de risques que moi. Et c'est tout à fait OK. Et du coup, maintenant, effectivement, j'ai un engagement un peu plus tourné auprès de ma fille qui me prend forcément plus de temps. Et puis j'ai découvert aussi une notion qui était quelque part en sous-main et dont on parle beaucoup pendant des moments d'éco-psychologie ou de travail qui relie ou de réflexion un peu plus philosophique, moins concrète mais plus philosophique autour de l'engagement écologique. C'est celui de sentir uni au vivant. Et de sortir un peu de cet individualisme asphyxiant et de se dire, mais en fait, c'est reposant parfois de sortir du développement personnel et de se dire, on n'est qu'un parmi d'autres et on repose sur l'intégralité du vivant, etc. Et ça m'a fait cette impression avec ma fille où, quand je l'allaite, quand je me lève en pleine nuit, etc., je m'oublie un peu et en fait, ça me fait du bien.
Je me retrouve bien dans ce partage d'Hélène. Moi aussi, la maternité m'a aidée à me décentrer. Mon conjoint pourra en témoigner, mais avant d'avoir des enfants, je ne supportais pas de ne pas manger à heure fixe. Passé midi, midi et demi maximum, si je n'avais pas mangé, je me transformais en gremlins. Quand nous avons eu nos filles, ça a totalement changé, notamment quand je les allaitais. Je mangeais avant tout pour être sûre de pouvoir les nourrir ensuite. Leurs besoins passaient avant le mien, et ça m'a aidé à mieux gérer mon rapport à l'alimentation. Bref, ça m'a fait du bien. Et à mon conjoint aussi, je dois avouer d'ailleurs.
C'est totalement assumé, et ça ne me dérange pas du tout de me dire, à certains moments, c'est tout pour ma fille, et c'est OK. En fait, ça fait tellement du bien d'être dans cette générosité absolue que j'ai déjà ressenti parfois en faisant des maraudes ou en faisant des choses, des engagements auprès d'amis ou de famille très très fort. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et surtout de beaucoup plus continu. Et ça, c'est, pour moi, c'est un grand bonheur en tout cas. Il y a beaucoup de militants écolos qui l'ont, qui vont aller voilà, se mettre dans des arbres pendant des mois pour une cause juste. Et en fait, la préservation d'un enfant est une cause juste, son éducation quelque part, et c'est très agréable. Il ne faut pas que ça nous enferme, évidemment, il n'y a pas que ça. dans la vie. Hein, on a toujours besoin de lutte et d'être un peu les pieds sur terre. Mais en tout cas, ça m'a apporté une sensation presque corporelle et en tout cas philosophique supplémentaire.
Printemps 2022. Hélène, en fin de grossesse, m'appelle, totalement angoissée. Elle fait plein de cauchemars et elle a besoin d'en parler. Elle me propose alors de participer à une conférence intitulée « Parentalité, écologie et féminisme, un triptyque impossible ». On embarque avec nous la comédienne Audrey Vernon, interprète de l'excellent seul en scène « Billion Dollar Baby ». J'en ressors à la fois enthousiasmée d'avoir pu aborder ces sujets et super frustrée par notre échange, trop court pour aborder une question si vaste. La graine était plantée et l'idée de créer mon propre podcast en a découlé rapidement.
Parentalité, écologie et féminisme ne sont plus du tout un triptyque impossible. Tout simplement, l'expérience a répondu à mon interrogation et parfois on a besoin de passer par là. Pas toujours, hein. Parfois des réflexions, des échanges suffisent à formuler une conviction, mais moi c'est passé vraiment par l'expérimentation de ce qu'il en a été dans ma vie. J'avais beaucoup de doutes, beaucoup de peurs aussi sur ce que ça allait donner, sur est-ce que j'étais pas en train de me fourvoyer moi-même sur mon engagement, sur ce que ça allait donner, est-ce que j'allais pas devenir de ces mères totalement gaga pour qui il n'y a plus que ça et donc elles balayent tous leurs engagements. Et j'en ai vu malheureusement hein, des personnes sur les réseaux sociaux qui étaient très engagées écologiquement avant et qui du jour au lendemain tout excusent. Maintenant que j'ai des enfants, je me rends compte que c'est plus possible. Bah, en fait, si, on a toujours le choix. Donc, c'est qu'on prenne surtout pas nos enfants comme des excuses pour ne plus être écolo et pour se dire « Ah, mais tu comprends, il adore Disney, il adore les peluches, il adore les jouets en plastique, je peux rien faire. Bah, » Non. Alors oui, c'est vrai qu'on apprend à mettre un peu plus d'eau dans son vin. Mais en réalité, c'est pas nous, enfin, c'est plus nos enfants, c'est qu'on leur laisse une certaine forme justement d'autonomie et que si eux choisissent d'accepter un jouet des grands-parents, etc., et que nous-mêmes, on reconnaît qu'on n'est pas la seule figure d'autorité de nos enfants, au bout d'un moment, il faut apprendre que nos enfants aussi feront leur choix et qu'on ne peut pas tout contrôler de leur vie, on n'est pas des mini-dictateurs en puissance. Donc là-dessus, oui, forcément, il y a des choses qui n'étaient pas du tout présents dans nos vies et qui finiront par le devenir. Ma fille, elle est encore trop jeune, donc pour l'instant, c'est moi qui prends l'essentiel des décisions pour elle, mais je sais que ça finira par arriver et c'est OK. En revanche, moi, pour moi-même, ça n'a rien changé. Je ne me suis pas dit « Ah bah du coup, j'arrête d'être végétarienne, j'arrête ceci, j'arrête cela ». Non, je suis restée droite dans mes bottes parce que aussi, j'ai l'impression que je le dois aussi à ma fille, puisque j'en suis fière de ses convictions. Je ne vais quand même pas les abandonner en prétextant que c'était pour elle. Ça, en plus, c'est lui mettre une pression sur les épaules. Encore une fois, quelque chose de dire « Ah mais... » Quand je t'ai eu, enfin, j'imagine la discussion dans 20 ans, ah bah oui, j'étais super militante, super engagée, j'étais super dans ma vie. Et puis quand je t'ai eu, bon bah, j'ai dû abandonner. Non, c'est injuste. Voilà, au niveau de mon féminisme, en tout cas, ça l'a pas du tout changé. Voire au contraire, il y a une sororité encore plus amplifiée sur la connaissance d'une nouvelle classe sociale qui est la classe sociale des mères, sur laquelle retombe encore plus d'injonctions. Et puis, du côté de l'écologie, bah, quelque part, ça le renforce aussi sur le fait qu'il y a une nouvelle personne qui doit respirer de l'air pur à nos côtés.
Cette classe sociale des mères. J'en ai beaucoup accompagné pour Edénie, justement. Et si notre fameux triptyque était pour elles compliqué à conjuguer, c'était souvent à cause de leurs proches, pas toujours alignés avec leurs convictions. Pour les aider, nous leur partageons un outil assez magique, la CNV, la communication non violente, que je sens aussi influencer la parentalité d'Hélène aujourd'hui.
Quand on fait justement l'expérience de cette altérité, de cette confrontation à l'altérité de nos familles, de nos proches, sur la manière d'éduquer, sur les frictions que ça va créer, c'est l'expression de ses besoins. Ça, c'est quelque chose qui manque cruellement. qui manque dans beaucoup de collectifs d'ailleurs militants, qui manque dans la société en général. Et c'est bien dommage parce qu'encore une fois, on a été contaminé par cette vision très égocentrique et très individualiste de l'expression de ses besoins, parce qu'il y en a qui en abusent totalement et ça devient vraiment l'inverse de la beauté de ce que ça peut représenter à la base. Le but n'est pas du tout de faire de compromis et de s'imposer sur les autres, c'est au contraire de vouloir agir en coopération avec les autres et dans cette vision bienveillante de pouvoir exprimer, de dire voilà, moi j'ai cette vision, je l'argumente, j'exprime mes besoins, je formule une demande et toi qu'est-ce que tu as à en dire ? Et en fait souvent les personnes n'ont pas eu la réflexion conscientisée de leur manière d'agir et se retrouvent bien quoi de dire ah bah moi j'ai pas vraiment de demande, je sais pas, attends. Et pour une fois, ils écoutent. Mais ils écoutent pas parce qu'on leur donne des ordres ou des injonctions ou des moi, je sais, etc. Mais au contraire, parce qu'on dit ah, il me semble que, en tout cas, moi, je perçois ceci, etc. Et moi, c'est ce que je fais avec mes proches et avec mes parents, c'est que premièrement, j'ai vraiment une démarche de verbalisation de ce qui nous importe. Deuxièmement, j'ai une démarche d'exemplarité, c'est-à-dire que je montre particulièrement par l'action comment on aimerait que que quelque part s'exerce l'autorité autour de notre enfant, ou la non-autorité d'ailleurs, se mettre à son niveau. Et troisièmement, une très grande fermeté, et ça je l'ai appris de toutes mes années d'engagement militant, une très grande fermeté sur ses revendications et l'exercice de ses valeurs les plus importantes. Par exemple, moi, de respecter le consentement de ma fille, c'est quelque chose d'absolu. C'est une règle, c'est-à-dire quelqu'un qui la force, qui fait du chantage en disant « Ah, je te donne une part de gâteau si tu me fais un bisou » ou « Ah, dis bonjour à mamie » ou « Fais un bisou », ça c'est quelque chose sur lequel je vais être extrêmement ferme. Je vais le dire de manière très respectueuse parce que encore une fois, c'est tout ça, ça fait partie d'un déterminisme social, d'une histoire collective. Donc je reste ferme sur le fait « Non, ça vraiment, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. » Et je fais exercice de pédagogie en expliquant pourquoi et en montrant moi-même par l'exemple à quel point ça peut être différent. Et je ne suis pas entourée non plus de personnes trop toxiques, mais j'ai la chance que ça passe bien.
Cela passe bien aussi car dans la CNV, il y a également le fait d'exprimer ses ressentis. Et moi, j'ai remarqué que quand on faisait ça, les personnes en face de soi, qui sont souvent des personnes qui tiennent à nous en fait, elles n'ont juste pas envie de faire quelque chose qui va nous générer des émotions inconfortables. Si je prends l'exemple d'un moment qui crispe pas mal de monde, les fameuses fêtes de Noël, avec sa débauche de surconsommation. Eh bien, à partir du jour où j'ai partagé à ma famille à quel point tout ça me rendait triste et que j'avais l'impression qu'on passait à côté de l'essentiel, donc que j'ai dévoilé une certaine forme de vulnérabilité, il y a eu une écoute plus attentive et une envie mutuelle de trouver un terrain d'entente. Les liens précieux, c'est aussi tout ce que nous chérissons dans nos vies, ce qui nous permet de tenir le coup face aux mauvaises nouvelles, encore trop nombreuses. Ce pour quoi on se bat et qui nous aide à garder le cap. J'ai donc envie de suivre un fil rouge dans le podcast et de demander à chaque invité, et donc à Hélène, qu'est-ce qui est précieux dans sa vie aujourd'hui ?
Ce qui est précieux dans ma vie aujourd'hui, c'est l'entraide. C'est quelque chose qui me rend extrêmement émotive de voir, de pouvoir avoir justement des liens avec d'autres personnes. J'ai beaucoup, beaucoup reçu. Ça fait un an où je crois que j'ai pas eu une seule semaine sans qu'il y ait des personnes en dehors de notre noyau familial qui vivent avec nous. Parfois pendant plusieurs mois, on a hébergé aussi des personnes qui étaient en déménagement ou en situation de rupture ou en difficulté. On a hébergé aussi beaucoup de personnes qui nous ont aidés en sorte de, entre guillemets, chantier coopératif pour nous aider dans cette rénovation. On a eu aussi nos familles, on a eu, enfin voilà, des amis, donc vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Et à chaque fois, il y a un côté fatigant de recevoir parce que j'ai cette éducation de on a toujours envie voilà de faire plaisir aux autres, Et de l'autre côté, je crois qu'on a réussi à déconstruire pas mal de choses et à être encore une fois dans cette expression de besoin et du coup cette simplicité qui fait du bien à tout le monde. C'est-à-dire, en fait, tu rentres, on est en pyjama, on n'a pas pris de douche, on est pressé, bon bah tu t'occupes, tu prends tes aises, tu fais comme chez toi, ça fonctionne aussi très bien. Et ça nous a permis d'avoir, mine de rien, tout en étant beaucoup plus éloigné géographiquement, physiquement de nos proches, et bien de garder ces liens. Et pour moi, ça, c'est extrêmement précieux, cette entraide qui m'a parfois totalement désarmée. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup donné les années précédentes, mais là, ça fait un an que je reçois beaucoup. Et j'ai totalement accepté, vraiment les bras ouverts, cette aide, parce qu'il y a un moment donné entre la rénovation, l'accouchement, les arnaques qu'on a eues, les difficultés, les problèmes financiers ou professionnels, etc. J'ai eu des mains tendues auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et pour moi, ça a été super, super beau, quoi. Et donc, extrêmement précieux. Et j'ai hâte, là, je ressens le regain d'énergie. Ça fait un an que voilà, je suis en même temps que ma maison en train de récupérer et de retrouver de l'énergie pour pouvoir après la redonner aux autres et commencer un nouveau cycle qui sera tout aussi beau et précieux, j'espère.
Ce nouveau cycle pour Hélène va démarrer prochainement, avec l'arrivée d'une deuxième petite fille. Une grossesse un peu inattendue également, mais accueillie avec joie, car elle permettra à leur fille aînée de ne plus être seule. C'est important pour Hélène et son conjoint, qui auraient aimé vivre en collectif. Car la vraie liberté ne peut se penser qu'en autonomie, et l'autonomie est forcément collective. Une réflexion inspirée directement de l'ouvrage d'Aurélien Berland, « Terre et liberté », et qu'Hélène a développé dans une conférence TEDx à La Rochelle, que je vous recommande chaleureusement d'écouter. Alors Hélène et son conjoint continueront sûrement dans le futur à faire famille autrement. L'adoption, la possibilité de devenir famille d'accueil, sont autant de pistes pour lesquelles une réflexion est ouverte. Car il y a un vrai souhait de pouvoir offrir leur cadre de vie très positif à d'autres personnes. Et ça aussi, dans le monde dans lequel on vit, c'est extrêmement précieux. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à nous faire vos retours via les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a aidé à cheminer, parlez-en autour de vous et donnez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour nous soutenir. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et de vos liens précieux.